Vous êtes avec SBS French.
Les grands titres de ce jeudi 7 novembre, le Premier ministre australien Scott Morrison va dévoiler ce jeudi les mesures pour venir en aide à celles et ceux touchés par la sécheresse. Les travaillistes vont publier également ce jeudi le rapport sur leur défaite aux élections fédérales en mai dernier. Sport, la Fed Cup de tennis féminin, ce sera la finale France-Australie ce week-end en Australie-Occidentale. Le gouvernement fédéral dévoile officiellement ce jeudi ses dernières mesures en faveur des personnes touchées par la sécheresse. Le programme d'assistance comprendra un financement de près d'un milliard de dollars. Les petites entreprises touchées par la sécheresse auront accès à des prêts, tandis que les conseils locaux des zones touchées recevront des millions de dollars pour des projets de création d'emplois. Écoutez la ministre de l'Agriculture, Bridget McKenzie.
This package delivers for National Party communities and drought-affected farmers, which is exactly why National Senators, MPs and Senators come to Canberra. We're sent here to deliver, and today we are.
Et le vice-premier ministre Michael McCormack a décidé que les agriculteurs ne seront pas payés pour qu'ils quittent leur ferme. Le Parti travailliste publie son rapport post-électoral ce jeudi. Deux hauts responsables du Parti travailliste, l'ancien premier ministre, plutôt l'ancien chef de l'Australie-Méridionale, Jay Weatherill, et l'ancien ministre fédéral, Craig Emerson, ont examiné la raison pour laquelle le parti avait subi sa défaite lors des élections fédérales de mai dernier. Ils présenteront les résultats de cet examen à l'exécutif national du parti ce jeudi, après quoi leurs conclusions devraient être rendues publiques. Le leader du parti travailliste, Anthony Albanese, donnera une réponse à la question demain au National Press Club à Canberra. Le parti travailliste a perdu les trois dernières élections fédérales et sept des neuf dernières élections. Une nouvelle plateforme de partage d'informations sera lancée pour tenter d'améliorer la collaboration entre les agences de protection de l'enfance des États et des territoires du pays et les agences fédérales de protection de l'enfance. La société iTree, basée en Nouvelle-Galles du Sud, a obtenu un contrat de 5 ans portant sur la fourniture de la plateforme d'une valeur de 5,9 millions de dollars qui devrait être opérationnelle d'ici le milieu de l'année prochaine. Il sera financé conjointement par le gouvernement fédéral et les gouvernements des États et des territoires. Le gouvernement fédéral a déclaré que la plateforme permettrait aux travailleurs sociaux d'obtenir un aperçu plus complet et plus précis de l'histoire d'un enfant. Le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, a déclaré que les terroristes utilisent des crypto-monnaies telles que Bitcoin pour financer leurs activités terroristes. Peter Dutton prononce aujourd'hui un discours lors de la conférence No Money for Terror à Melbourne. C'est une conférence internationale qui examine les moyens d'arrêter le financement du terrorisme. Le gouvernement du Victoria devrait annoncer aujourd'hui, ce jeudi, que l'exploitation forestière de l'État sera arrêtée au cours des 10 prochaines années. Cette décision pourrait coûter des milliers d'emplois. Pour certaines industries, toute décision va aggraver la tension mentale et émotionnelle des familles vivant dans des régions rurales de l'État et ces personnes se sentiront trahies. Le Premier ministre britannique Boris Johnson demande aux électeurs de soutenir son plan de Brexit aux prochaines élections générales du 12 décembre prochain. Il déclare que les travaillistes vont perdre plus de temps sur le Brexit s'ils gagnent et qu'ils organiseraient un deuxième référendum sur le Brexit et l'indépendance de l'Écosse en 2020.
Come with us, get Brexit done and take this country forward or... And this is the alternative next year. Spend the whole of 2020 in a horror show of yet more dither and delay.
Et maintenant, l'analyse du lancement de la campagne des Tories, marquée par des faux pas, comme nous l'explique Muriel Delcroix pour Radio France Internationale.
Boris Johnson a tenté de recentrer l'attention sur la campagne qu'il se propose de mener pour réaliser une bonne fois pour toutes le Brexit. Mais les efforts du dirigeant conservateur pour paraître enthousiaste ont été sérieusement gâchés par la polémique soulevée par ses propres députés. Quelques minutes avant son intervention en grande pompe devant Downing Street, son ministre en charge des affaires galloises, Alan Kearns, a dû démissionner, accusé d'avoir menti pour protéger un collègue qui a fait dérailler l'an dernier un procès de harcèlement sexuel. Parallèlement, le ministre Jacob Rees-Mogg est sous le feu des critiques après avoir suggéré que les 72 habitants morts dans l'incendie de la tour d'habitation Grenfell il y a 2 ans avaient manqué de bon sens en n'évacuant pas l'immeuble et en respectant plutôt les consignes des pompiers. Et pour couronner le tout, Boris Johnson lui-même s'est attiré les foudres de nombreux Britanniques en accusant son adversaire travailliste Jeremy Corbyn de s'en prendre violemment aux riches et en le comparant à Joseph Staline. Mais cette attaque s'est rapidement retournée contre Boris Johnson alors que la gaffe de son ministre Jacob Rees-Mogg la veille a fait ressurgir les accusations d'insensibilité des responsables conservateurs issus de milieux aisés, mais aussi la propension du parti Tory à favoriser les plus riches au détriment des plus modestes.
Les élections législatives ont lieu à Maurice ce jeudi 7 novembre. Le Premier ministre sortant Pravin Jugnauth, 57 ans, a succédé à son père Anirudh Jugnauth en janvier de 2017 en tant que chef du mouvement socialiste mauricien, principal parti de la coalition au pouvoir, sans être passé par des élections. Il affronte ce jeudi Navin Ramgoolam, leader du Parti travailliste et chef de l'Alliance nationale avec le Parti mauricien social-démocrate de Xavier Luc Duval. L'autre troisième bloc est mené par le vétéran Paul Béranger du mouvement militant mauricien. Ce seront les 11e élections législatives à Maurice depuis l'indépendance de la Grande-Bretagne en 1968. Les électeurs vont choisir 62 députés, dont 60 à Maurice et 2 à Rodrigue. La commission électorale nommera ensuite 8 députés parmi les non élus ayant obtenu les meilleurs scores pour rééquilibrer la répartition des sièges entre partis et communautés à l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, les élections locales du mardi 5 novembre ont été marquées par des défaites pour le Parti républicain à 1 an de l'élection présidentielle, notamment défaites dans l'État de Kentucky, un bastion conservateur. Écoutez l'analyse de Nicole Bacharan, historienne et politologue spécialiste des États-Unis, qui vient d'écrire ce livre « Le monde selon Trump, tweets, mensonges, provocations et pourquoi ça marche ». Nicole Bacharan est avec Sylvie Noël de RFI.
Toute défaite électorale est très embarrassante pour Donald Trump. Le fait est qu'il n'est pas bien placé dans les sondages aujourd'hui. Sa popularité est ferme, son camp ne le lâche pas, mais on est toujours, disons, à 42%. Or, depuis la dernière guerre, il n'y a pas d'exemple d'un président qui ait réussi à se faire réélire en ayant des sondages en dessous de 48% de popularité. Même sur l'économie, qui est son point fort, une majorité d'Américains ne lui font pas confiance. Il est trop versatile et il y a trop d'inquiétudes autour des guerres commerciales. Mais après, au-delà de ça, il y a le calcul, on le sait, aux États-Unis, État par État, et qui met en avant les mêmes États que la dernière fois, alors non pas le Kentucky, la Virginie, mais toujours le Wisconsin, l'Ohio, le Michigan. Et là, Donald Trump compte jouer la même carte, c'est-à-dire embarquer, si j'ose dire, ces 3 États et gagner le vote État par État et non forcément une majorité du vote de chaque citoyen.
Les grands électeurs contre le vote populaire.
Exactement.
En Afrique, au Burkina Faso, une embuscade contre un convoi de la société minière canadienne Semafo a fait au moins 37 morts et quelques 60 blessés. Reportage Yaya Boudani, RFI.
Difficile de donner un bilan définitif de cette attaque, car une soixantaine de travailleurs de la mine restent toujours introuvables. Une soixantaine de blessés est toujours prise en charge. Dans un communiqué, la compagnie minière explique que le convoi a été attaqué à une 40aine de kilomètres du site de Bungu. Le convoi était accompagné par une escorte de militaires burkinabés. Il était composé de plusieurs autobus qui transportaient des employés burkinabés, des entrepreneurs et des fournisseurs de la mine. Selon des sources sécuritaires, mercredi, c'est aux environs de 9h30 heure locale que des hommes armés ont lancé l'assaut. Le véhicule des militaires chargé de la sécurisation du convoi a sauté sur un engin explosif improvisé et cela a été suivi d'échanges de tirs entre les militaires et les assaillants. pris de panique, les passagers des autobus se sont dispersés dans la brousse pour chasser par des hommes armés. L'incident s'est produit dans une zone non couverte efficacement par les réseaux de téléphonie, ce qui, selon nos sources, a rendu très difficile l'arrivée de renforts rapidement sur place. Un conseil de cabinet présidé par le chef du gouvernement est prévu ce jeudi.
Le journal de la semaine en Afrique, ce sera tout à l'heure avec Émile Matasso, juste après le journal des sports. La Banque mondiale s'inquiète de la situation politique et économique au Liban. Analyse de Patricia Lecomte pour RFI.
La Banque mondiale s'alarme de cette instabilité. Elle vient de demander au président libanais, Michel Aoun, la formation rapide d'un gouvernement. C'est la situation économique et financière du pays qui inquiète l'institution. Le poids de la dette s'élève à 86 milliards de dollars, soit 150% du PIB, l'un des ratios les plus élevés au monde. Plus d'un quart des Libanais vit sous le seuil de pauvreté et le pays est parmi les plus corrompus du monde selon l'ONG Transparency International. Pour la Banque mondiale, il y a urgence. Chaque jour qui passe plonge le pays un peu plus dans la récession. Les prévisions pour 2019 ne sont pas bonnes. L'institution financière internationale s'attend à une croissance négative de 0,2%. Elle redoute, en cas d'enlisement, une flambée du chômage. La moitié de la population pourrait alors sombrer dans la pauvreté. L'agence de notation Moody's vient d'ailleurs de rétrograder la note du Liban en la passant de CAA1 à CAA2, un niveau qui le rapproche du seuil de rééchelonnement de la dette publique.
En France, le gouvernement a présenté son plan pour une immigration, je cite, équilibrée. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui a présenté ce plan hier. Analyse de Anne Souhaitemont pour RFI.
Nous sommes maintenant au temps des décisions.
Après avoir insisté sur la concertation menée, pas moins de 12 ministres ont planché sur le sujet, c'est de la fermeté qu'Édouard Philippe vient afficher, la fermeté d'un gouvernement qui veut retrouver sa souveraineté en matière migratoire.
Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Reprendre le contrôle, c'est lutter fermement contre tous les détournements du droit d'asile, contre l'immigration irrégulière.
De la fermeté, mais aussi de la prudence. Exemple sur l'immigration économique, le Premier ministre prend des pincettes pour détailler une mesure controversée.
Notre volonté, c'est de faire des choix en matière d'accueil. Fixer des objectifs quantitatifs ou des quotas, les deux termes me vont.
Le fameux « en même temps macroniste » repris par chacun des ministres.
Nous ne touchons pas au regroupement familial et par contre, nous luttons contre toutes les fraudes.
Dont Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur.
Je vais prendre un exemple très concret. Un homme qui reconnaît un enfant qui peut ne pas être le sien. Ce sont des choses que nous avons pu constater, mais pour lesquelles nous ne travaillons pas assez en amont.
Signe que le gouvernement veut aller vite, les mesures listées aujourd'hui seront débattues dès demain par les députés dans le cadre de l'examen du budget.
L'actrice Catherine Deneuve, 76 ans, a été hospitalisée dans la nuit du 5 au 6 novembre, je cite, victime d'un accident vasculaire très limité et donc réversible selon un communiqué de la famille. Catherine Deneuve participait depuis le mois dernier au tournage du film d'Emmanuel Berco, De son vivant, avec Benoît Magimel. Un mot de sport et la finale de la Fed Cup ce week-end entre l'Australie et la France. Pour Sam Stossel, australienne, la priorité c'est de travailler en équipe pour remporter ce tournoi.
It's just good being out there as a team and as a group and yeah, doing whatever we can to obviously be prepared for your own self and obviously for the rest of your teammates.
On passe à la météo pour ce jeudi en Australie. Perth maximale de 30 degrés, Adélaïde 19, Melbourne 18 degrés, Hobart 15, Canberra 20, Sydney 30, Brisbane 33, Darwin 34 et à Alice Springs un maximal de 35 degrés. Un rappel des grands titres de ce 7 novembre, le Premier ministre Scott Morrison va dévoiler ce jeudi les mesures pour venir en aide à celles et ceux touchés par la sécheresse. Les travaillistes vont publier également ce jeudi le rapport sur leur défaite aux élections fédérales de mai dernier. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.